Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. On commence ça net frais de sec. Le 12.
Ça part ici.
Et bonjour à toutes et à toutes, messieurs, dames. Actuellement, on se retrouve dans l'émission Le 12, événement où on va détailler tout ce qui se passe au sein de la fac. Plus particulièrement, aujourd'hui, on fait un grand point sur un nouvel arrivant. Je te laisse te présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mathias Walgraf. Je fais partie de la Flèche, la faculté des lettres et sciences humaines.
Et actuellement, tu es venu, du coup, nous présenter un nouveau sujet qu'on va voir dans les prochaines minutes. Sachant de cela, on aura aussi suivi de ceci un possible interview avec l'Argus. Et parallèlement à ça, on aura aussi un autre interview encore possible à voir si Saint-Ginataire va se présenter en ambassadeur pour un peu parler des grèves de la fac au niveau de l'université, notamment parcours santé, droit et quelques autres. On mettra un point en clair dans tout ça dans ces quelques minutes. Eh ben bonjour déjà, est-ce que ça va bien ?
Ça va, et toi ?
Ça va très bien. Même on rappelle du coup le sujet que tu es venu nous présenter, c'est vers une technologie plus responsable, l'éco-conception numérique, un impact environnemental de nos appareils. Sommes-nous dans cette nouvelle ère de plus en plus connectés ? Je pense que oui, mais à quel prix ? Au niveau de la planète, on a des appareils numériques bien pratiques, mais qui aussi à la fois peuvent générer des impacts environnementaux importants, de ce que je comprends. Vis-à-vis de ça, tu as apporté une étude plus poussée sur cette thématique. Et c'est pour ça que j'aimerais déjà avoir ton avis, du coup. Qu'est-ce que tu veux nous présenter et pourquoi as-tu choisi ce sujet ?
Ben en fait, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai un cours sur les enjeux sociaux du numérique, justement. Et on a eu une présentation qui nous a un peu éclairé sur l'impact environnemental que peut avoir le numérique. Et du coup, ça nous a vraiment un peu bouleversé, je vais dire, dans le sens où il y a des chiffres, des choses qu'on ne savait pas du tout et qui nous ont vraiment éclairés. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, ben voilà, on doit faire un projet de fin de session. On va essayer de mettre en avant l'impact environnemental de la fabrication, de la destruction et un peu de l'utilisation aussi, mais en moindre partie
du numérique. Donc, je parlais de la fabrication, de la conception et de l'utilisation du numérique. Dans ces thématiques-là, on a un point culminant qui est sur ces trois enjeux, c'est l'éco-conception numérique.
Ouais.
Peux-tu un peu m'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est un enjeu crucial aujourd'hui ?
Mais concrètement, l'éco-conception, ça implique l'utilisation des matériaux plus durables pour faire les téléphones. On essaye de faire une réduction de la consommation d'énergie, donc avec des applications, avec des systèmes moins énergivores. Et aussi, on essaie de faciliter le recyclage en fin de vie des appareils. Donc en fait, c'est toutes des solutions, des petites touches à gauche, à droite, qui font qu'un appareil, parfois, émet deux fois moins d'émissions
De CO2. De CO2, notamment.
Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est pas très connu, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas venir en parler ici, il y a des gens que ça va toucher.
Et pourquoi c'est un enjeu crucial aujourd'hui, cette thématique-là ?
Mais parce qu'on utilise énormément nos appareils numériques, des appareils numériques. Chaque année, on achète des ordinateurs, des tablettes, des téléphones. Parfois, on n'en a pas besoin. Parfois, on n'est pas obligé d'acheter des nouveaux. On pourrait les utiliser plus longtemps. Mais voilà.
Au-delà de ça, la consommation qu'on a sur les réseaux sociaux comme Meta ou autre,
exactement.
Les gens ne se rendent pas compte de l'impact. Ne serait-ce que swiper, ça équivaut à 8 mégaoctets. Et c'est 8 mégaoctets, c'est une quantité un peu faramineuse de dioxyde de carbone qui est rejeté. Tu pourrais nous éclairer sur ça ou pas ?
Mais nous, en fait, on s'est vraiment penché sur la fabrication. Parce qu'en fait, on a eu des chiffres, enfin, on a fait des recherches.
Okay.
Et on s'est rendu compte que, par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur l'iPhone 11.
Ouais.
Eh ben, 80% des émissions de CO2 produites par l'iPhone 11, c'est à sa fabrication et sa destruction.
Et quantitativement, ça représente à quoi à peu près à l'échelle ?
À échelle, ça représente 80 kilos de CO2.
Ok, par iPhone ?
Par iPhone.
Par iPhone 11 ?
Par iPhone 11.
C'est-à-dire que sur des modèles supérieurs, on serait à plus ?
On est à plus. Il n'y a pas encore d'études qui ont été faites à grande échelle. Là, c'est Apple qui avait fait l'étude, donc source fiable, on va dire. Mais plus on avance et plus il y a une propension énorme.
En vrai, ça rejoint...
C'est dingue, mais...
C'est ça.
En 2050, les émissions de gaz à effet de serre produites par les numériques vont dépasser... celle produite par les transports.
Putain. Ça veut dire qu'en gros, actuellement, ce qu'on tient potentiellement dans nos mains, dans la vie de toujours, c'est un facteur de pollution.
Ouais.
Mais du coup, en quoi l'éco-conception, ça va nous permettre de corriger ces choses-là? Parce qu'on a... Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas familier à ce sujet, tu vois, je suis là, j'ai envie de me dire,
ouais, ouais.
C'est la faute, c'est pas la faute des consommateurs, c'est la faute des entreprises qui produisent ça et qui nous poussent à la consommation. C'est vraiment un chelou.
Ben, non, mais c'est vrai.
C'est politisé.
Mais je suis d'accord, parce que et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec cette solution, mm-hmm. c'est les entreprises qui font le pas d'essayer de rendre ces appareils
réutilisables,
plus éco-responsables,
ouais. Et réutilisables,
on peut okay. les recycler facilement. Il y a même des appareils où tu retires 5 vis et tu sais changer les pièces, les pièces quand ça va plus. Donc ça peut vraiment durer longtemps.
Ok.
Donc ici, il y a une étude de Green IT qui a montré qu'en 10 ans, l'éco-conception numérique, ça a permis de diviser par un facteur de 2 à 100, donc mm-hmm. il y a 10 ans 2, maintenant 100, la quantité de ressources nécessaires pour okay. fabriquer un téléphone. Donc ça veut dire qu'on est quand même en grosse évolution, ça reste sous les radars,
ça reste
pas très connu.
Ouais.
Mais parce que le problème, c'est le coût de base est pour le moment trop élevé par rapport à ce que ça... à ce qu'on est habitué. On est habitué à avoir des téléphones qui swipent super vite, avoir des qualités d'écran incroyables, des qualités mm-hmm. de photo. Il n'y a même plus besoin d'appareils photo, c'est les mm-hmm. téléphones. Mais ces téléphones-là ne sont pas encore capables, honnêtement, de rivaliser
avec
à ce niveau-là. Okay. Mais au niveau des coûts, on s'en rapproche tout doucement.
Ouais.
Et maintenant, c'est au niveau de la performance qu'il faut que ça s'améliore. Mais c'est vraiment.
Mais est-ce que plus de performance serait plus de pollution?
Oui. Ouais. En fait, le problème, plus ton téléphone a des. Est net au niveau de la qualité,
ouais.
plus il a du contenu, plus il a des traitements qui sont lourdes.
Plus son traitement de données est rapide, plus sa consommation
exactement.
De données est importante.
Exactement.
Bah, vis-à-vis de ça, ça représente un peu plusieurs du coup, principes défis. Tu parlais également en fait, du fait que les gens se dirigeaient aussi pas trop vers du coup, l'accessibilité au renouvellement ou au recyclage de téléphone. Est-ce que tu penses que c'est un des principaux défis des entreprises dans cette thématique d'éco-numérique? Ou alors peut-être il y a d'autres défis qu'ils rencontrent beaucoup plus importants.
Mais je pense qu'il y a aussi le fait de ne pas, mais malheureusement on est dans un engrenage qui est comme ça, de ne pas faire de téléphone chaque année des nouveaux. Il n'y a pas besoin, je pense, que chaque année on ait un nouveau téléphone avec quelques trucs en plus et du coup tout le monde change. Il y a vraiment cet effet de consommation, mais non voilà, c'est un système.
Donc on régule la concurrence entre les technologies
Ben oui, je pense que ça sort. Il y a des centaines de téléphones qui sortent, je vais peut-être pas dire chaque année, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de marques avec beaucoup de téléphones qui sortent. Et je pense que le fait qu'on en fasse moins et qu'on essaye de les rendre plus performants au niveau écologique et pas au niveau de la pratique.
Donc tu penses que peut-être une production ciblée sur uniquement l'achat serait intéressant auprès des entreprises? C'est-à-dire que je m'explique que je suis une entreprise de téléphonie.
Ouais.
Je produis un téléphone uniquement quand un client passe une commande.
Ça, je pense pas que ce serait possible parce qu'il y a 1,5 milliard de téléphones qui sont vendus chaque année. C'est énorme. Donc, ce serait vraiment trop, je pense, compliqué à faire.
Mm-hmm.
Mais il y a quand même énormément de choses qui sont mises en place pour nous pousser à acheter des nouveaux téléphones. Mm-hmm. On montre la capacité de la batterie, par exemple, sur les iPhones.
Ouais.
Donc tu sais voir, ah purée, il n'a plus beaucoup de capacité, je vais aller acheter un nouveau. Ou tu vois le nouveau qui a 3, 4, 5, 6, 7 fonctions en plus, une caméra en plus. On te promet plein de choses et au final, ben oui, ça change un petit peu, mais tu n'en as pas spécialement besoin. C'est dommage.
Ça tombe du coup un peu sur le cycle de vie de l'appareil. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des points à améliorer, notamment dans le cycle des appareils? Ou peut-être ce serait plus une mise en œuvre de la part des consommateurs à mettre en place?
Je pense qu'il y a les deux. Il faut utiliser de la manière plus responsable ces appareils, donc en prendre soin. Mais ça, je pense que la plupart des gens le font déjà.
Ouais.
Mais je pense aussi que au niveau de la fabrication, il y a moyen de faire des téléphones qui durent longtemps.
Mm-hmm.
C'est vraiment quelque chose que les entreprises doivent essayer de mettre en place. Maintenant,
L'obsolescence programmée devrait
exactement.
Être bannie, en fait.
Mais comment faire? Parce que c'est ces gens-là qui sont des puissances mondiales. Enfin,
c'est presque des puissances
mondiales.
C'est fou quand même de dire qu'on a accepté l'obsolescence programmée.
Ouais, mais ils ont un pouvoir tellement... C'est des gens les plus riches du monde qui ont
qui ont ce choix, mais comment ils peuvent mettre en place ça? C'est vrai que c'est une question. On a fait le débat à la radio précédemment. Moi, j'aimerais ton avis vis-à-vis de l'obsolescence programmée, même si tu l'as un peu donné. Est-ce que tu penses que l'obsolescence programmée, c'est un facteur qui empêche la progression de l'éco-conception actuellement?
Absolument, parce que les gens se disent je vais acheter un nouveau téléphone, je vais acheter le plus performant, mais si c'est pour acheter un autre téléphone, on se dit, on pense pas forcément à, quand on va acheter un téléphone éco-conçu puisqu'on ne connaît pas,
ouais,
à la durée de vie qu'il peut avoir.
Ouais.
Il peut avoir une durée de vie de peut-être 3, 4 ans en plus, mais on va pas y faire attention parce que on va pas y prêter attention parce qu'on connaît pas. Donc il faudrait quelqu'un dans l'entourage qui essaye d'en acheter un, puis ben on voit si ça va ou pas. Mais je pense que le fait que les gens ne sachent pas, ils vont vers des choses qu'ils connaissent. Et
en fait, ils consomment pour plus ou moins tester.
Ouais, voilà.
Mais ça revient à gaspiller, en fait. Donc en soi, les entreprises, tu penses que les entreprises actuellement, elles font exprès de se jeter cette balle à terre ou...
Moi, j'ai l'impression que on sait.
Ou c'est peut-être les consommateurs qui devraient revoir leur vision des choses.
Je pense qu'il y a des deux côtés, mais je pense que les entreprises savent très bien qu'elles gaspillent. Okay. Il y a des gros problèmes de ressources, de matières premières. Donc, on est vraiment en manque. En 2050, apparemment, ça va vraiment être problématique parce qu'il y a des matières qu'on ne trouve déjà presque plus. Il n'y a que certains pays qui sont majoritaires, dont la Chine. Donc, il y a des gros contrats. C'est pour ça que le prix des téléphones augmente parce que ces matières premières coûtent plus cher. Donc, la Chine n'a pas voulu les faire sortir de son territoire. Par exemple, encore l'exemple d'Apple, ils ont acheté ces matériaux, mais du coup, vraiment beaucoup plus cher pour que la Chine accepte de les donner, sinon ils ne savaient plus produire leur téléphone. Et du coup, je pense que aussi l'enjeu, c'est de savoir réutiliser ces matières premières, parce qu'on sait les réutiliser, mais avec une autre manière de fonctionner et de faire des téléphones.
Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, des gouvernements un peu, parce que moi, j'ai une question à me poser, c'est qu'on parle des puissances économiques auprès de ces entreprises, on parle un peu des consommateurs, qu'on est censé faire un travail aussi, mais est-ce que les gouvernements et les instituts, elles aussi, devraient aussi mettre en place des soutiens pour la promotion de l'éco-conception, par exemple ? Parce que comme tu le dis, on n'en entend pas trop parler.
Ouais.
C'est revenu sur quelques débats, mais c'est pas mis en lumière.
Je pense qu'il y a encore de l'amélioration qui va devoir se faire avant qu'on mette en avant cette solution, parce qu'il faut, quand le gouvernement va mettre en avant une solution, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle soit bonne, sinon ils vont se faire ridiculiser, on va dire. Donc il faudrait vraiment que cette éco-conception soit encore plus poussée, parce que là c'est encore assez récent. Ça va s'améliorer, je pense, d'année en année, quand on voit la vitesse la vitesse à laquelle les technologies avancent.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aller assez vite.
Okay.
Et je pense que, comme tu dis, ça pourrait vraiment être bon de pousser les gens à prendre ce genre de téléphone, à acheter ce genre de téléphone. On peut changer les pièces nous-mêmes, c'est facile. Mais il faut comme le gouvernement fait pour pas mal de choses, l'environnement, il faut le mettre en priorité. Et je pense que faire des bons, entre guillemets,
pour ces téléphones. Promouvoir des financements, par exemple.
Exactement.
On parlera peut-être de la...
Financer des recherches, des entreprises.
Il y a la labellisation qui allierait par rapport à ça, que l'État français a mis en place. Je ne sais pas si tu vois de quoi je te parle. C'est en gros une labellisation qui permet une réduction des prix de réparation d'outillage informatique.
Ah non, je ne connais pas.
Ça s'appelle CaliRépar, du coup.
Je t'avoue que je ne connais pas, non.
À cela, en fait, on a envie de se dire aussi que... tu parlais aussi d'innovations mises en place. Est-ce qu'il y aurait actuellement des innovations qui sont déjà un bon faire-valoir ou donnent un peu d'espoir sur un peu d'optimisme dans cette situation ?
Il y a une société qui vend des téléphones éco-conçus.
Okay.
Donc c'est pas facile à trouver, mais par exemple Fairphone, ils produisent des téléphones éco-conçus qui sont beaucoup plus durables et responsables. Dell, HP, ils font déjà des gammes d'ordinateurs qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc on essaye tout doucement de faire bouger les lignes, mais je pense pas qu'en innovation il y ait une grande innovation qui ait été faite de là à apporter des solutions et à donner envie aux gens d'acheter ce genre de téléphone. Parce que je prends mon exemple personnel. J'ai acheté un iPhone il y a un mois, le tout nouveau. Bon, c'est la première fois, j'avais mon autre depuis 4 ans. Mais si j'avais su tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler et tout, je suis pas sûr de l'avoir acheté.
T'aurais pris ton ancien modèle et t'aurais essayé de le remettre.
Voilà, ou j'aurais acheté, exactement, ou alors j'aurais acheté un téléphone.
Ok.
En regardant l'éco-responsabilité, la durée de vie, parce qu'en plus, forcément, c'est des téléphones qui coûtent cher. Donc au final, je suis un peu... Je suis content de mon téléphone.
Tu penses que du coup, dans le cadre de la fabrication au moins, de l'achat,
il
faudrait que les institutions ou les gouvernements également présentent une réelle politique de sensibilisation auprès des consommateurs.
Ouais.
Ça t'a aidé toi personnellement ou pas ?
Toutes mes recherches, elles m'ont aidé. Mais je trouve que...
C'est dommage que tu aies dû faire des recherches.
Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de solutions alternatives qui sont proposées. Il n'y a pas de solutions mises en avant par le gouvernement. Il y a plein de choses qu'on met en avant dans les trams, dans les bus, sur plein de sujets importants aussi.
Ouais.
Mais je pense que là, maintenant, l'environnement, c'est vraiment quelque chose de super important.
C'est super important, quand même, tu le dis, notamment sur les thématiques. J'ai envie d'avoir une petite réaction de ta part sur un sujet que j'ai préparé, qui est en rapport avec ça. On rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, l'utilisation des serveurs dans le cadre des différentes applications, donc ça parle à l'utilisation de ces téléphones. On a notamment le web qui représente près de 10% de la consommation mondiale d'électricité. En gros, pour faire simple, les serveurs qui servent de base de données essentielles pour ces applications sont reliés par d'immenses câbles sous-marins qui sont nécessitaires pour leur refroidissement et les passations aussi de ces données informatiques. On situerait, et c'est des chiffres qui sont très précis, qui relatent des faits réels, on situerait que sur TikTok ou Instagram, une consommation de moins d'une minute équivaudrait à 0,9 et 1 g de dioxyde de carbone, ainsi que le temps annuel moyen de l'utilisateur passé sur ces applications équivaut à terme d'émission de CO2. Par exemple, si tu passerais une heure sur l'application, tu ferais du coup 1 g fois une heure. Donc ça te ferait 1 gramme fois 60, donc tu serais à 60 grammes de CO2. Maintenant, si tu imagines ça sur des dizaines de millions, de milliards de personnes d'utilisation, on a un gros déficit de pollution. Et vis-à-vis de ça, beaucoup de questions se posent, notamment sur peut-être plus tard les conséquences que va avoir ces utilisations. Pourquoi les applications ne nous limitent pas ? Après, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, personnellement, je te donne mon avis. Je me dis actuellement, ce serait fou, tu vois, j'arrive pas à me l'imaginer pour te dire que les applications mettent une durée limitée à titre écologique.
Ok.
Je pense que ce serait impossible parce que ça serait en totale opposition avec le concept, mais le fait que tu swipe, tu vois, c'est 2 mégabits. Le fait que tu télécharges une création de contenu, c'est 8 mégabits. Maintenant qu'en plus, on a l'instrumentalisation avec l'intelligence artificielle qui va créer du contenu continu, t'as envie de te dire qu'il faudrait peut-être limiter ça. Est-ce que tu penses que toi, actuellement, il serait temps peut-être d'envisager de la part des consommateurs ou alors peut-être de ces entreprises une limitation du temps d'utilisation de ces applications ?
Je pense qu'il serait temps, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde dans le sens où...
tu vois, la transition, on n'arrive pas à l'imaginer. Genre.
Non, parce que, en fait, on fait tout pour te pousser à rester le plus longtemps possible sur les applications. Ça. Toutes les applications se modifient, toutes les mises à jour sont faites à partir de
l'algorithme
pour, exactement
pour ta consommation.
On veut te garder dessus, on fait tout ce qu'on peut pour te garder dessus. On t'offre ci, on t'offre ça, on te montre ci. On va vraiment chercher de par tout ce que tu as regardé avant, toutes les informations que tu donnes. Mais on sait vraiment ce que tu aimes et on te pousse à rester sur ton téléphone. Il y a les réseaux sociaux en plus, donc tu es en permanence en communication avec le
monde. T'as envie de réagir,
tu peux être dans ta chambre et parler
au monde. T'as envie de réagir, genre.
Voilà, exactement. Mais moi,
on est né avec
je me sens accro à mon téléphone. Et c'est triste parce que je le sais. Mais comment changer ça ? Je pense qu'il y a mon rôle à moi, forcément. Donc, à essayer de me limiter. Maintenant, on sait mettre sur le téléphone. On sait bloquer son téléphone. On sait toujours le débloquer si on veut. Mais je veux dire, on peut mettre le temps d'utilisation qu'on souhaite sur un téléphone. Essayer de vraiment trouver des solutions pour remplacer notre temps de téléphone et faire autre chose à la place. Il faut savoir ce qu'on va faire, pas se dire bon, ok, j'utilise pas mon téléphone, je fais quoi maintenant? Non, je vais aller lire un livre, je vais aller courir, je vais aller
peut-être
faire du sport.
C'est ça, peut-être faire avoir une prise de conscience sur la vie. Ça a déjà commencé en plus ça récemment, mais peut-être aussi les applications pourraient mettre un temps de pause, tu vois, mais genre dans le sens où
il est temps de
genre éco-responsable, tu vois, un swipe éco-responsable, du coup ça te met un mode éco-responsable, ça réduit ton temps.
Moi je pense
ça monte ton empreinte en carbone.
Je pense que ça pourrait être une solution.
Parce qu'il faudrait peut-être des lois, en vrai. Faudrait peut-être des lois qui forcent les entreprises, tu vois, à mettre directement devant les gens, genre, l'empreinte carbone que tu consommes actuellement quand tu es sur ton téléphone.
Le problème, c'est qu'on est dans des sociétés capitalistes, donc c'est vraiment le profit pour les entreprises qui compte. Et quand on sait les groupes de pression, les groupes d'intérêt qu'il y a, qui sont énormes, qui brassent énormément d'argent et qui influencent les gouvernements, je ne vais pas dire qu'ils les dirigent parce que ce n'est pas vrai, mais ils les influencent fortement. Donc, est-ce que les gouvernements pourraient obliger ça avec la liberté d'expression ? Donc, par exemple, des enjeux difficiles à mettre en place, je trouve.
Moi, je pense que si on mettrait peut-être, tu vois, genre, une petite option sur TikTok ou Meta, où tu vois l'empreinte carbone que tu laisses.
Par exemple, ça, c'est faisable, je pense.
Ça sensibiliserait beaucoup les gens. Et ça serait très apprécié même de la part de la communauté. Après, on sait malheureusement qu'il y aura des gens qui s'en foutront.
Comment obliger ? Est-ce que tu peux obliger ? Je sais pas dans quel cadre, honnêtement, tout ce qui est juridique et tout, mais est-ce que le gouvernement...
Actuellement, il n'y a pas...
Ils peuvent limiter certaines choses, mais ce qu'ils peuvent obliger. Mais ça pourrait, je pense que ton idée est vraiment bonne, que les gens se rendent compte. Et même, on se rend pas compte de ce que c'est un kilo de CO2, une tonne de CO2. On sait pas c'est quoi. Et je trouve que ça, c'est dommage qu'on n'ait pas des. À l'école, on a des cours sur plein de choses, sur la religion. Mais on n'a pas de cours sur qui est environnemental, alors qu'à l'heure actuelle, je pense que je ne suis pas, un militant, mais je pense que l'environnement est vraiment...
On n'a pas de sensibilisation en vue de nos domaines d'études dans le cadre, dans la partie environnementale, ça c'est vrai.
Ouais, voilà.
Par exemple, un mec en droit ne verra jamais...
Exactement.
Ou je sais pas, un mec en informatique ne verra jamais la partie... Légèrement, on a quelques cours sur ça en ingénierie, sur la partie environnementale ici, mais je sais que ce n'est pas fait dans
toutes les institutions. Mais ce n'est pas du tout mis en avant. Et ce n'est pas une critique envers les écoles, mais même au secondaire, ça devrait déjà être quelque chose qui est mis en place. On en parle... Pas du tout, j'ai jamais eu un cours qui m'a parlé de ça, c'est la première fois qu'on parle d'environnement ici, donc je suis content d'avoir eu ce cours et ça m'a vraiment aidé.
Le dernier mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à faire passer ? Et parallèlement à ça aussi, est-ce que tu pourrais peut-être, pour des gens qui voudraient se renseigner, partager tes renseignements, où as-tu trouvé tes sources ? Où on pourrait peut-être se renseigner sur ce sujet ? C'est le mot de la fin et je te le laisse.
Du coup, j'ai trouvé mes sources forcément sur Google Scholar, des sources scientifiques.
Okay.
Donc il y a des stats du gouvernement canadien.
Okay.
Je me suis beaucoup utilisé ça du gouvernement québécois.
Okay.
Il y a des stats qui viennent de France aussi.
Mm-hmm.
Et pour mot de la fin, par exemple, on est dans une émission pour les gens du campus aussi. N'oubliez pas que en bas de la COP, donc dans l'étage inférieur de la COP, il y a un endroit pour déposer vos appareils numériques quand vous les utilisez
Pour le recyclage.
Au lieu de les mettre à la poubelle, de les laisser dans vos tiroirs ou quoi, si vous ne les utilisez plus, mettez-les là, ils vont être bien recyclés. Mm-hmm. Et on va pouvoir réutiliser ces matières premières pour faire d'autres téléphones, d'autres tablettes, d'autres ordinateurs.
Donc on peut avoir un impact même au sein de l'université.
Exactement, à notre échelle, on peut avoir un impact et c'est bon de savoir et de parler un peu plus de ces impacts environnementaux sur du numérique.
Ce projet, est-ce qu'il va être publié quelque part par hasard ?
Le 4 décembre,
okay.
Donc c'est un mercredi, le mercredi 4 décembre de 11h à 13h, on va tenir un kiosque devant la COP et entre la fac de droit et la fac des lettres et sciences humaines, où on va essayer justement de sensibiliser les étudiants, parce que là tout le monde ne nous écoute pas, on va essayer de sensibiliser les étudiants à venir déposer leurs appareils, à réfléchir à deux fois avant d'acheter un appareil, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je peux pas le faire réparer, est-ce que je peux pas acheter un appareil reconditionné par exemple, c'est aussi donc faut vraiment réfléchir. Quand on achète des nouveaux appareils, réfléchissez et regardez la consommation de CO2.
Voilà. C'était le mot de la fin. En tout cas, on se retrouve après une courte pause pub. En tout cas, on va retrouver peut-être, c'est pas sûr, le Remdus pour l'interview et on finira avec la personne concernée pour potentiellement discuter avec elle sur la thématique des grèves. C'était Ryan et
Mathias. Merci beaucoup.
De rien, un plaisir. Et rebonjour à toutes. Alors actuellement... je suis avec un ambassadeur du Remdus qui va nous parler des événements qui vont avoir lieu du coup le 27 septembre notamment. Je commencerai directement. Vous avez mis en place un laser game. Est-ce que tu pourrais un peu plus m'expliquer l'événement ? Je rappelle qu'il va avoir lieu le 27 novembre à 18h à Sherbrooke. L'adresse c'est 2257 rue King West.
Ouais, c'est ça. En fait, on organise une activité pour la communauté étudiante. C'est mercredi prochain. Donc, c'est un gros laser game. Viens avec tes amis. C'est des équipes de 5 à 8. Donc, du coup, si t'es étudiant, c'est 5$. Si tu veux ramener un ami qui est externe, genre, c'est 7$. Et
okay.
Donc, c'est ça. Tous les billets sont en vente chez nous au 10,43 si tu veux venir.
Donc, c'est que du fun et de l'éclate.
Que du fun et de l'éclate. Ils ont même fait une petite réduction sur la nourriture et la boisson. Donc,
J'ai vu que vous avez fait un petit sondage en plus par courriel. Alors, comment ça a été les retours ?
Je t'avoue qu'on n'a pas encore eu assez de retours comme on le pensait. Mm-hmm. Mais on table sur le fait qu'on a déjà 2 équipes pour le moment. On aimerait bien 5 pour au moins 40 à 50 personnes.
Okay.
Parce que tu sais, le Laser Game Evolution à Sherbrooke, c'est sur 3 étages. Ils vont ouvrir les 3 étages pour nous. Donc, ce sera de 18h30 à 21h30. Donc,
c'est ça. Ça va être sympa. On rappelle le cash prize, 2 cartes cadeaux de 50 euros et 8 cartes cadeaux de 100 euros à gagner dans les commerces de ton choix. Comment vous avez réussi à mettre ça en place, mon Dieu ?
Écoute, on discute avec mes partenaires, c'est ce que je disais.
C'est la technique.
Exact.
Vis-à-vis de ça, en plus, vous avez également, en parlant d'équipe, de travail d'équipe, de mise en place d'équipe, vous avez 4 postes qui sont vacants et qui sont nécessaires à combler.
Ouais.
On rappelle que pas mal de gens ont reçu le mail via le remdus@sherbrooke.ca. Pour la question que je pense chaque personne se demanderait, c'est pourquoi ces places sont vacantes et aussi spécifiquement qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que ça nous apporte de travailler au remdus, qu'est-ce que ça nous apporte en tant que ton expérience personnelle dans ça?
Ben, écoute-moi, au niveau du Rhumdus, moi je suis à la direction des affaires internes, donc moi je m'occupe de tous les liens avec les associations et faire les activités pour la communauté étudiante. Mm-hmm. Mais en gros, tu vois, quand tu es au conseil d'administration du Rhumdus, tu nous gères en fait, tu gères l'entreprise, tu gères l'association en tant que telle. Donc c'est une expérience à la fois professionnelle, mais aussi humaine, parce que tu n'es pas tout seul.
Okay.
Au total, il y a 12 postes à combler. Oui, il y a 4 postes qui sont vacants, mais il y a des gens qui sont en place déjà sur place, là, avec une présidence, etc. Puis ça te permet de t'impliquer, non seulement pour le Rhumdus, puis ça donne une opportunité, puis aussi de travailler parfois dans des comités au sein de l'université. Tu vois,
donc ça pourrait favoriser à développer plus ou moins un réseau pour la personne étudiante.
C'est un réseau, puis c'est aussi des compétences personnelles, professionnelles que tu as en plus sur ton CV.
Donc j'ai vu que le poste n'était pas rémunéré, donc tu parlais du coup à la fois d'un enrichissement de réseau et professionnel.
C'est ça.
Cet événement, ça peut être pour assister au congrès du 20 novembre 2024. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi également?
Ouais, en fait, le congrès qui a lieu ce mercredi, là, le congrès, c'est le congrès des associations du Rhumdus, donc des 25 associations membres. En fait, c'est le moment où nos 25 associations, on fait un état des lieux, puis on vise les grandes lignes, tu vois. Ça trace la voie vers quoi le Rhumdus, l'entité Rhumdus va. Puis on fait des comptes rendus, etc. La personne qui souhaite se venir au conseil d'administration, en fait, elle vient, elle l'assiste au congrès, puis elle peut proposer sa candidature à ce moment-là. Puis aussi, tu peux aussi nous contacter si tu ne veux pas assister.
Donc pour les gens qui voudraient travailler et qui sont motivés, quelles tâches spécifiquement ça demanderait de mettre en place?
Je te dirais que ça dépend dans les comités et ton implication que tu vas prendre. C'est genre, tu peux être autant dans le comité RH, donc ressources humaines, comme dans le comité gouvernance. Tu travailles en collaboration avec notre directrice générale, etc. Mais ça dépend vraiment de ce que tu as envie. Tu peux aussi être dans le comité finance, qui est géré par Cécile Radosevic-Partardi, donc directrice au service finance du Rhumdus. Toi, c'est vraiment assez libre. Ça dépend vraiment de toi, ton envie en général. Bon, parfois, il y a des postes à combler, t'as pas le choix. Ça s'appelle le travail.
Ouais, il faut.
Mais, mais c'est ça, c'est vraiment...
Il y a quand même la possibilité... Vu que c'est pas rémunéré, de pouvoir choisir plus ou moins l'expérience qu'on veut.
Ouais.
Et ça offre, au-delà d'une simple rémunération, pas mal de bonnes occasions pour apprendre aussi de nouvelles compétences, je pense.
Apprendre un peu plus sur l'université de Sherbrooke en général, comment ça fonctionne les rouages, parce que tu vas devoir travailler parfois. Avec la Fondation Force qui va venir présenter quelque chose, puis tu vas apprendre qu'il y avait ça, tu vois, plein de choses comme ça dans lesquelles on est impliqué. Puis. Une fois par mois, nous, le CD, on a le conseil d'administration, on a le CA, où la bouffe est payée. Donc
c'est gratuit. Donc,
c'est gratuit.
On rappellera, du coup, pour ces postes à pourvoir, du coup, on a des avantages à la fois professionnels qui mettent en valeur des bonnes expériences dans le CV. C'est pris en compte sur certains facteurs de travail en entreprise. On a également, du coup, aussi l'apprentissage de nouvelles compétences qui peut être intéressant parce que qui dit nouvelles compétences dit possibilité aussi de les rémunérer en hors cadre du Rhumdus. Et on a aussi la possibilité d'avoir de rencontres et une accessibilité à l'information plus importante qu'on aurait dans la simple position d'étudiant.
Exactement.
C'est super sur cette thématique-là. Je finirai du coup peut-être, pas sûr, parce que tu me dis qu'il y a des nouvelles informations inédites, avec les cinémas parents-études de Mona 2. Ça a lieu le samedi 30 novembre à 15h à la Maison du Cinéma. Je rappelle que les billets en vente sont au Rhumdus, donc il faut directement aller au local E1 0143. C'est bien ça?
Ouais. Okay. 0-10-43. 0-10-43. T'inquiète.
C'est pour les parents aux études, c'est 5$ avec un petit breuvage, un petit popcorn. Et les enfants, c'est 3$.
Ouais.
Pour les membres du Rhumdus, c'est 5$. Et il y a plusieurs aussi offres dans le menu que je ne pourrais pas tout détailler. Mais la question, ce serait ça va être quoi en fait cet événement? Quel est votre but?
En fait, on essaie de vraiment impliquer les parents aux études. C'est compliqué, pas par leur faute, c'est parce qu'ils ont, ils ont une vie de famille à gérer, etc. C'est une activité qui fonctionne vraiment pas mal, le cinéma parents aux études. Donc, ce qu'on offre, comme on l'a vu dans l'offre, c'est une offre qui est là depuis quand même pas mal d'années.
Okay.
À chaque fois qu'on fait une sortie maison cinéma pour les parents aux études. Puis là, on a l'occasion, on avait déjà un peu sondé sur les réseaux sociaux, notamment la page sur les parents aux études, quelle heure les intéresserait plus. Puis le film Moana 2 sort justement la semaine prochaine, on se quitte.
Okay.
Table parfaitement au bon moment pour
ça,
le samedi.
Ça s'enchaîne bien.
Tu vois, par exemple, je te donne un autre exemple hors contexte, c'est genre le film Gladiator 2, il sort à un mauvais moment, il sort le samedi, on n'arrivait pas à avoir l'avant-première, tu vois, des trucs comme ça. Puis on s'est dit, pourquoi pas pour le film Moana 2, et puis pour les parents d'études, c'est déjà prévu depuis longue date, donc c'est ça.
Donc un événement que les parents d'études peuvent utiliser pour pouvoir avoir un bon moment avec la famille.
Oui, c'est ça, exactement.
Ok, bah, c'est super. Est-ce que tu aurais un autre événement peut-être à nous parler ?
Ouais, j'aurais bien aimé en parler rapidement de l'enquête pour toi de l'OSME. Donc, okay. C'est l'enquête de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Mm-hmm. Donc, elle a été lancée le 4 novembre, donc il y a deux semaines, je pense. Et elle se finit le 24 novembre. Et en fait, c'est un sondage que vous avez déjà reçu, que la communauté étudiante a déjà reçu dans sa boîte courriel. C'est le temps de parler de santé mentale. Il y a aussi petit truc fun à gagner, c'est 2 cartes cadeaux de $500 et 8 cartes cadeaux de $100 à gagner.
Ah, c'était ça du coup.
Oui, c'était ça. Ça a été le truc que tu as dit tout le début en fait.
Ok, bah correction, d'accord, désolé.
Il n'y a vraiment pas de trou. Mais du coup, en fait, ça découle en fait d'une grosse enquête depuis 2019 qui a eu lieu, qui s'appelait Sous ta façade. Et en fait, ça a été fait par l'UEC, donc l'Union étudiante du Québec. Et en fait, il faut se rendre compte qu'en 2019, il y avait déjà une personne sur cinq qui disait avoir eu des problèmes et qui ont dû avoir un traitement. Pour ça. Et en fait, a découlé ça, un plan gouvernemental de plus de $100 millions d'investissement dans les études postsecondaires. Donc il faut savoir
pour un soutien psychologique auprès de ces
entre autres c'est tous les aspects des problèmes que pourrait avoir un étudiant. Faut savoir qu'en 2020 ça a été mis en place sur 3 ans, puis là ils sont sur un nouveau plan, donc 2023, ce plan qui finit en 2026. Et donc comme on est occupé de renouveler de refaire ce renouvellement, il faudrait que tout le monde réponde, donc autant les personnes qui ont peut-être des problèmes de santé mentale, mais aussi ceux qui sont en bonne santé mentale.
C'est donc important de consulter un psychologue. C'est
entre autres, mais ça donne. Ce qui est bien aussi avec cette enquête, c'est que ça donnera aussi cette fois-ci un portrait sur l'UDS, donc sur l'Université de Sherbrooke. Donc ça nous donnera, ça nous permettrait de faire de la représentation en fait. Donc tout ce qui est services de proximité, donc ça permettra de cibler les réels problèmes. Donc ça peut être un psychologue, mais ça peut être aussi dans un domaine particulier, tu vois.
Donc au-delà de ça, même les personnes qui ne se sentent pas dans ce sujet, ils peuvent quand même prendre en compte que c'est important de participer à ça parce que ça peut aider quelqu'un d'autre.
Ça peut aider, puis même ça permettra de mieux cibler tout simplement. Si plein de gens disent qu'ils sont en bonne santé mentale, ben, le pourcentage des étudiants qui ne vont pas bien, on va pouvoir mieux cibler ce qu'ils ont besoin.
On va savoir précisément les causes des dépressions qu'on peut avoir.
Des dépressions, puis ça peut, tu vois... Ça peut aller vite, ça peut être à la fois un problème mental, mais aussi un problème des cours, de la situation financière des étudiants, un trop-plein, tu vois. Donc, donc c'est ça.
Okay. Donc, important de répondre à cette enquête parce que ça permet plus tard, possiblement, de mettre en place des vrais soutiens et d'avoir une idée un peu plus large des difficultés étudiantes.
Exactement.
Qu'en plus, il y a pas mal d'étudiants qui sont en difficulté alimentaire ou autre. Donc
ça. Puis, tu sais, comme on a dit. L'essentiel, c'est qu'aussi cette fois-ci, on va pouvoir avoir un portrait global de la santé mentale étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc même nous, à l'interne, on va pouvoir faire de la représentation auprès de notre institution universitaire. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir de bonnes données.
Pour vous aider sur ces données-là, comment on pourrait faire ça
Bah, répondre tout simplement
au sondage. Ce sera le mot de la fin.
Tout simplement, répondez au sondage. J'ai déjà dans vos boîtes courriel dans l'UDS. Donc... allez checker ça.
Ok, bah c'est super. Bah, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en plus ou pas ?
Non, mais répondez au sondage, venez au Laser Game, ça va être le fun, puis il y a plein de choses que j'essaie de mettre en place pour notre communauté étudiante.
Eh bah, j'espère que la vie étudiante prendra en considération tout ce qui est mis en place. Surtout, je pense que moi, personnellement, pour accompagner ton sujet en totale transparence, je trouve que c'est très important de répondre au sondage. J'ai répondu au sondage. Donc moi je pense que si c'était vraiment ça le projet, j'ai bien fait d'y répondre parce que...
Puis ça t'a pris combien de temps toi ?
Ça m'a pris je pense 3 minutes, 4 minutes comme ça.
4-5 minutes.
À moins qu'on veut vraiment détailler quoi.
Si on détaille, ça peut prendre maximum 10 minutes.
10 minutes
maximum. Mais genre ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, c'est ça. Si ça peut aider d'autres personnes, ça vaut extrêmement le coup et ça demande même pas une implication financière.
C'est ça.
Donc vraiment c'est très beau. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Suivez de près les événements du REMDUS. N'oubliez pas que c'est toujours suivable via vos postes par mail. Et vous pouvez directement aussi passer vous renseigner au local E1 1043.
Merci à vous tous.
Allez, et rebonjour à toutes et à toutes. Alors actuellement, je suis avec, peux-tu me dire qu'est-ce que tu représentes au sein de l'université du coup ? Ce que tu veux.
Je vais parler plutôt en mon propre nom.
Ok.
Donc je m'appelle Inès. Super Inès. Je suis étudiante à l'université.
Ok. T'es en quel département ?
J'étudie en physiologie.
Ok. Donc vis-à-vis de ça, du coup moi j'ai appris qu'il y avait une grève qui était mise en place au sein de l'université.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi elle a été mise en place, quelles sont les causes et quel message vous voulez faire passer avec cette grève notamment ?
Alors
ça s'inscrit en fait dans un mouvement qui est international, donc sur pas mal de campus en Amérique du Nord et dans le monde entier.
Okay.
Y a des grèves qui s'organisent, ça fait suite à tout le mouvement pro-palestinien qui est né sur les campus tout l'été, si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé.
En France, il y a eu Paris 8 notamment qui a aussi mis en place pas mal de grèves sur ces thématiques-là.
Ok.
Je t'écoute en fait.
C'est ça, nous, sur le campus de l'Université de Sherbrooke, on avait fait un campement qui avait duré 52 jours, il me semble. Puis on avait certaines revendications à l'égard de l'Université de Sherbrooke qui n'ont pas vraiment été entendues. Donc c'est pour ça qu'on revient avec une autre méthode de revendication qui est la grève.
Via la grève. Quelles sont, du coup, pour les personnes qui ne savent pas le sujet, c'est quoi, du coup, ces revendications que vous avez demandées et pourquoi vous les avez demandées ?
Déjà, on demandait à l'université d'être transparente sur ses investissements parce qu'on a accès à certains de ses investissements, du coup, qui, pour certains, sont problématiques, comme des investissements dans des banques, FBC, la banque Scotia ou une entreprise d'armement dont j'ai oublié le nom.
D'armement de juste, c'est Project, si je ne me trompe pas. Ils ont...
Comment ?
Je vois de laquelle tu parles, c'est par celle qui a commencé la production de 5000 missiles.
Non, c'est pas dans celle-ci que l'université a des investissements, mais dans. J'ai oublié le nom.
Ok, c'est pas grave.
J'ai le mauvais nom de la tête.
Mais en gros, juste, vous voulez du coup. Tu parles d'investissement déjà.
Ouais.
Je te ferai un petit parallèle sur ça. Pourquoi investissement ? Comment ça.
Les étudiants payent des frais de scolarité qui sont vraiment conséquents pour certaines personnes. Cet argent-là sert à financer en fait, le fonctionnement de l'université en général qui fonctionne grâce à tous ces frais-là.
Okay.
Et donc, du coup, ça serait bien que déjà on sache...
Et du coup, cet argent-là, du coup, les frais d'étudiants, ils sont utilisés pour investir Ok, c'est un peu comme un portefeuille d'actions, en gros.
C'est un peu ça. Il y a différentes branches dans l'université, mais on aimerait que l'université soit le plus transparente possible, ce qui n'a pas été fait. Nous, on a demandé... justement, l'université nous avait promis qu'elle allait publier les partenariats de recherche de plus de 50 000 dollars dans un délai de 3 mois après le campement, ce qui n'a toujours pas été fait. Donc, on attend toujours ça. On lui demande de désinvestir de ses investissements problématiques pour que l'université, elle marche avec de l'argent, mais que cet argent ne serve pas à tuer des personnes innocentes.
D'accord. Pour dans le cadre du conflit israélo-palestinien, du coup.
C'est ça.
Parce que concrètement, cet argent, qu'est-ce qu'il fait ?
Comment ça ?
Comment cet argent investi, il influence le conflit, si tu préfères ?
Ok, mais en fait, on ne sait pas exactement puisque on n'a pas accès à toutes ces informations-là. Donc, on aura juste des listes qui sont disponibles sur le site de l'université. Ce qu'on craint, nous, c'est que par rapport à des investissements dans des compagnies pareilles, on contribue à créer des armes,
indirectement,
à produire des armes ou à envoyer des armes, et donc les civils en pâtissent.
Donc, selon vous, l'association, est-ce que tu sais, ta parole est un peu celle de l'association ou pas?
Là, je parle vraiment mon nom, mais oui, c'est ce que pense un peu notre groupe, je pense.
Donc, vous pensez, du coup, que... J'essaye de décrire l'état de pensée. C'est vous pensez que, du coup, indirectement, qu'on le veuille ou non, en participant à ça indirectement, sans la connaissance, et vous demandez, du coup, à l'université qu'il précise ça, qu'il présente cela.
Bien sûr.
Qu'ils veulent qu'il y ait une totale transparence pour que les étudiants se rendent compte et soient un peu sensibilisés du coup à l'influence de l'argent qu'ils mettent en place pour leurs études, que cet argent-là est aussi utilisé notamment pour des conflits politiques et des guerres. C'est ça que tu essaies un peu de faire passer comme message.
C'est exactement ça. On doit être conscient de quels impacts on a. On est dans une université, on est dans des lieux d'éducation. C'est quand même important qu'on ait conscience de ces enjeux-là.
D'accord. C'est très beau. Merci de faire passer le message. J'avais une question un peu sur la structure de la grève pour renseigner un peu les étudiants qui sont pas trop au courant. Comment elle va être mise en place et de ce que je comprends, il fallait qu'il y ait l'accord aussi des personnels de professeurs.
Non. La grève part tout le temps des étudiants. Donc en fait, ça part depuis les associations étudiantes. Donc en fait, c'est des groupes d'étudiants eux-mêmes qui vont aller voir leurs associations représentantes et qui vont leur demander est-ce qu'on peut lancer une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir voter la grève. pour que l'assemblée puisse avoir lieu, en général, il y a des pourcentages minimums, genre un quota de, je sais pas moi, 30 personnes, par exemple. Ensuite, l'AG est lancé, et dans cet AG-là, de façon démocratique, les étudiants peuvent voter s'ils veulent une grève ou non, pourquoi, débattre, etc. Et ça se lance comme ça. Puis là, la grève est prévue pour le 21 et le 22 novembre.
Okay.
Ça va dépendre des associations.
Donc jeudi et vendredi. Okay. Et quelle association, du coup, a été prise? Donc, plus particulièrement, quelle zone d'études va être mise en grève, mis à part la santé?
Ouais, c'est ça. Il y a l'AGS, la santé, il y a Histoire second cycle. J'ai oublié le nom de l'asso, mais c'est ça. Et il y a Éducation second cycle. Et il y a Pharmaco, dans le campus de la santé, pharmacologie, pardon. Et je crois que c'est ça, pour l'instant.
J'avais une question, du coup, parce que de ce qu'on voit, c'est une démarche qui est étudiante, initialement. Est-ce que toi, vous avez reçu un soutien, quand même, de la part de certaines personnes au sein de l'université, dans ce combat-là que vous
autre
menez
que les étudiants, tu veux dire.
Autre que les étudiants.
Il y a certains professeurs qui ont été un peu de notre côté durant le campement, mais qui n'ont pas forcément pris des positions qui soient publiques. En dehors de ça, on était plutôt tout seuls. C'est plus des gens de la société civile qui nous ont apporté beaucoup d'aide. Et on les remerciera jamais assez pour tout ça. C'était un soutien qui était indispensable. On n'aurait jamais tenu sans eux. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça continue.
Est-ce que tu aurais un mot à faire passer en parallèle de ça?
Est-ce que j'aurais un mot à faire passer? J'aimerais qu'on porte notre attention sur la souffrance du peuple palestinien qui est en train de subir des massacres et des bombardements depuis plus d'un an maintenant et qui est sous le joug de l'État israélien depuis beaucoup trop longtemps maintenant.
C'est ton opinion sur le sujet?
C'est mon opinion sur le sujet. Puis, c'est ça.
Ok, bah... pour les personnes qui, les auditeurs qui seraient sensibles à cette grève ou à cet impact, est-ce que tu pourrais peut-être dire où ils devraient se guider ou des actions qu'ils pourraient mettre en place? On rappelle que du coup cette grève elle a pour but d'être non violente, de ce que tu m'as expliqué.
Bien sûr.
Donc est-ce que tu penses que où devraient se guider les étudiants pour du renseignement? Ou alors peut-être où les étudiants qui souhaiteraient participer et vous soutenir pourraient vous rejoindre.
Alors moi je fais partie du coup d'une association qui s'appelle le Front d'Action Collective. On a une page Instagram, donc ça s'appelle FAC, où vous pouvez nous suivre. On va mettre les informations des activités qui sont prévues pour les deux jours de grève. On va faire des manifestations, on va faire des ateliers de sensibilisation, etc. Puis donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment la bienvenue. Et sinon...
C'est tout.
C'est ça.
L'association est reconnue par l'université?
Non. On n'est pas reconnu par l'université, mais c'est une asso composée majoritairement d'étudiants. On n'est pas reconnu par les SBE.
Ok, ça marche. Bah, merci en tout cas.
Merci à vous.
Et on se laisse sur un petit jingle, petite musique tranquillou, les gars. Et on finit avec un petit spot publicitaire. N'oubliez pas qu'on se retrouvera du coup lundi prochain pour l'émission Le 12. Je pense qu'on aura beaucoup moins d'interviews et beaucoup plus de présentations sur les événements. En tout cas, passez un bon lundi, profitez. Et je vous laisse avec un petit spot publicitaire et la musique en action.